que nous sommes ravis, cinq autour de cette table, mais beaucoup plus dans l'organisation, de vous accueillir pour ce qui est qualifié d'événement de rentrée. Mais il y a bien longtemps qu'on est déjà rentré dans l'activité des différents volets de cette chère recette, reset, recette, toutes les formes de prononciation. Les réseaux électriques et sociétés en transition, le co-coordinateur, mon ami Cyril Abonnel, dans ce duo qui est assez rare pour une chaire où l'entreprise mécène et l'université avec l'ensemble des forces vives de recherche sur le réseau électrique collaborent directement et collaborent à l'animation, mais pas uniquement à l'animation, à la pensée et à la recherche-action. Donc nous sommes ravis de vous accueillir à cet événement très très original qui est lié à l'esprit donc fertile de Valérie Genebès et de Boris Urbas qui ont su concocter au minimum un triptyque avec une conférence inaugurale muséographie, muséologie, histoire des réseaux d'énergie mais également quelque part de transport avec notre invité qui a quitté la brume parisienne pour le soleil bordelais Lionel Dufaux qui fera une conférence qui est strictement obligatoire pour l'ensemble des étudiants de master et de doctorat ici présents dans les prérequis et dans les formes d'évaluation. Nous aurons ensuite, et ça je laisserai les organisateurs présenter, une forme de déambulation visite guidée du visible et de l'invisible. Cette séance est en effet intitulée après une réflexion approfondie menée par notre excellent chargé de projet, chargé de mission, Jordan Provost, qui est ici à la droite et qui est la cheville ouvrière avec la Fondation Bordeaux Université, qui est représentée par Sofia Karayotov, Irina, et puis Suzanne Poitou, qui est représentée. Donc, quelle médiation avec toujours le jeu entre le singulier et le pluriel, pour réinterroger le réseau électrique. Une journée, je vous rassure, une demi-journée ou un tiers de journée ou un quart de journée, entre le visible et l'invisible, on est en sciences humaines et sociales, la technique et la société, mais vous avez tous remarqué, vous vous êtes heurtés, vous avez commenté un cluster technologique, une grande exposition patrimoniale, maquette plus que maquette, chantier auquel se sont heurtés quelques archéologues classiques ou quelques collègues d'histoire moderne et ancienne à l'entrée du bâtiment principal, donc qui a été déployé par Enedis avec les différentes équipes. Donc il faut souligner également que cette manifestation, elle a été permise, et Cyril y reviendra, grâce à la mobilisation des métiers des différents services, donc d'Enedis en région, mais aussi les services de communication, puisque nous essayons de valoriser, outre les pages web, outre Facebook, donc une activité vidéo, une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver quelques éléments intéressants. D'ailleurs, que ce soit pour les étudiants, pour les collègues, la présence de ces enregistrements qui permettent de façon synthétique en quelques minutes normalement de dire l'essentiel, ça a souvent plus de succès que 18 réactions. Je ne ferai pas de commentaires ici de sciences de l'information et de la communication. Le visible, ce qui perdure sur une moyenne durée, est souvent plus intéressant. Mon rôle est de bien montrer qu'au-delà de la trilogie chère recette ou reset à l'Université Bordeaux-Montaigne, dans le cadre de la Fondation Bordeaux-Université, donc avec les autres universités et surtout l'Université de Bordeaux, puisque le Master Médiation des Sciences qui va vous être présenté est un master cohabilité entre l'Université Bordeaux-Montaigne et l'Université de Bordeaux, on a effectivement trois disciplines principales qui animent notre réflexion, notre recherche-action, nos déploiements donc de plateformes, nos interrogations citoyennes. On a trois disciplines, on a trois types de compétences spécialisées sur les réseaux parce qu'on confond souvent l'énergie, source et forme, les réseaux, production, distribution, fournition. Donc on est centré, consacré donc effectivement sur les réseaux avec trois dimensions, l'histoire économique et de l'innovation, les médiations, la médiation des sciences, déjà discipline tout à fait diversifiée, et la sociologie représentée donc en particulier par Sandrine Ruy. Je terminerai ici ce mot de bienvenue et d'accueil en en excusant donc la présidente de l'université, le vice-président, qui ont manifesté beaucoup d'intérêt, qui ont soutenu dans le cadre des locaux, dans le politique, donc de soutien de cette chaire. La preuve, cette salle est pleine, maison donc de la recherche. Jordan est fort bien accueilli, entouré aussi par les services de l'université Bordeaux-Montaigne. Nous mettons en place, il s'agit de gagner du temps, nous avons la page de la Fondation Bordeaux-Université, les tweets, dans la chaîne YouTube, vous retrouverez les informations à l'intérieur de l'université Bordeaux-Montaigne. Les missions sont expliquées, les prix, bourses, stages, toute une série de missions de recherche action. Et ici, on peut quand même, je voudrais souligner le plaisir, lorsque j'ai regardé la liste des inscrits avec Cyril, et il y a beaucoup plus de présents que d'inscrits, la diversité des parties prenantes et des acteurs, de très nombreux étudiants de master et pas uniquement d'histoire économique, heureusement, donc des représentants d'Enedis, des universitaires d'autres universités, d'autres masters, des acteurs de la société civile, des acteurs en même temps engagés sur le terrain citoyen de l'énergie, des réseaux et des réseaux en même temps sociaux. Donc c'était juste ici un mot d'accueil et je vais en profiter pour passer la parole au co-coordinateur, donc Cyril Abounel. Merci beaucoup.
Merci Christophe, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui effectivement pour cet événement dit de rentrée de la chaire. Enedis, effectivement, on est mécène de plusieurs chaires, mais qui jusqu'à maintenant étaient, je dirais, assez classiques, au niveau technique, électrotechnique, en bon français, et smart grid, n'est-ce pas, comme beaucoup le disent, les réseaux intelligents, ou encore dans la régulation finance avec Paris Dauphine, puisque c'est intrinsèque au modèle d'organisation et de distribution d'électricité en France, hein, la péréquation tarifaire notamment. Et de fait, cette chaire I7 est la première en sciences humaines et sociales, et importante dans le paysage, on va dire, de la réflexion et de l'action stratégique d'Enedis pour repenser le sens du service public de la distribution d'électricité avec l'émergence de nouveaux usages. Donc on est une entreprise très technicienne dans sa manière d'aborder les choses. Si tu peux, Jordan, j'ai deux, trois planches que je m'efforcerai de commenter rapidement. Là, ça peut paraître presque de l'histoire ancienne, pas pour des historiens chevronnés comme beaucoup d'entre vous le sont, mais en 2014, le gouvernement de l'époque lançait la Nouvelle France industrielle avec 34 chantiers importants, dont les réseaux électriques intelligents. Si vous le voyez en bas à gauche, il y a une illustration qui est tout sauf humaine, hein, c'est le jeu de la vitesse sur la lumière de nuit. Or, on a considéré, lorsqu'on a élaboré le programme de cette chaire, que c'était de plus en plus, avec les nouveaux usages, que ce soit les consommateurs, je ne m'étendrai pas sur ce terme, l'intégration de la mobilité douce, notamment électrique, ou encore le développement des productions d'énergie renouvelable pour enrichir le paysage de la production énergétique. L'un des enjeux, c'était justement, il était humain, sur le fait de vivre ensemble, l'aménagement du territoire. Donc, je veux bien que tu passes, on s'est attaché, on va s'attacher à déployer tout ce qu'il y a entre les adjectifs électriques et intelligents. Dans le cadre de cette chaire. Donc, on a, vous pouvez remarquer que dans le titre long, qui est Réseau électrique, société en transition, solidarité territoriale, comportement et systèmes intelligents, on retrouve nos trois termes initiaux, sauf qu'on a mis un certain nombre de choses au milieu, la solidarité, les comportements, les systèmes. Parce que ce qui est un peu paradoxal et pas forcément pensé tout ensemble, c'est qu'il y a de plus en plus d'enjeux systémiques avec les grands réseaux, et de plus en plus d'enjeux locaux et comportements individuels, notamment sur la maîtrise de l'énergie, qui devrait être facilitée par la technique et les objets compteurs. Je pense que Lionel Dufour aura l'occasion de revenir sur cette notion d'objet, sachant qu'il y a aussi de plus en plus l'enjeu de la donnée, la couche de système et d'information. Donc, je vous épargnerai le détail, on va dire, de l'aspect réseau. Je veux bien que tu cliques, Jordan, s'il te plaît. On avait, là, lors de la conférence inaugurale en avril dernier, on avait commencé à donner quelques pistes sur l'enjeu de la représentation, la complexité, la cartographie. On aura une petite esquisse aujourd'hui dans la deuxième partie, je pense, quels que soient d'ailleurs les supports de représentation, qu'ils soient physiques, numériques ou mentaux. Je voulais que tu continues. On a évidemment l'enjeu des transitions énergétiques, numériques, on aurait pu mettre sociales, hein, parce que c'est au cœur de nos enjeux. On n'a aussi volontairement pas mis en avant le mot innovation, même si, évidemment, comme disait Christophe, l'histoire de l'innovation est prégnante dans les enjeux électriques Et l'électricité, il y a un petit siècle, était ce que le numérique est aujourd'hui, hein, en termes d'effet waouh et le reste. Et donc, sur les systèmes complexes et le comportement dit intelligent, il y a aussi un enjeu très intéressant qui est le concept d'émergence. À savoir que quand on considère des briques individuelles, on n'obtient à peu près jamais des phénomènes émergents quand on les combine. Donc je ne vais pas évidemment les détailler aujourd'hui, mais ça fait partie des ambitions d'étude de la chaire que d'aller travailler ces enjeux de réseau. Et pour finir mon propos, je me permettrai de citer Simon Leys, qui a écrit un ouvrage tout à fait intéressant sur Orwell. Et les honnêtes gens ne disent rien car ils ne voient rien. Et s'ils ne voient rien, en fin de compte, ce n'est pas faute d'avoir des yeux, mais faute d'imagination. Je pense que cet après-midi, sur le visible et l'invisible, avec les réseaux qui sont de plus en plus souterrains, mais de plus en plus essentiels pour réussir à la fois localement et de manière multi-échelle, la transition énergétique, qui est une responsabilité collective et individuelle, c'est intéressant justement d'arriver à exciter l'imagination. Et je céderai à Valérie, Boris et les étudiants de se prêter à cet exercice de réussir à intéresser sur les réseaux qui, jusqu'à maintenant, on en parlait encore ce midi avec Lionel, y compris au sein du groupe EDF et des acteurs électriciens, étaient peu l'objet de préoccupations, la tension étant déjà très monopolisée par les moyens de production et la manière de consommer. Je passe la parole à Valérie et Boris, et je vous remercie encore une fois d'être tous présents.
Merci à tous, merci à vous. Donc, je suis Valérie Genobès, co-responsable du Master Médiation des Sciences de l'Université Bordeaux-Montaigne, avec mon collègue Boris Urbas, ici présent. Donc, nous représentons au sein de la chaire EZ le Master Information et Médiation Scientifique et Technique, donc Master IMST, et son parcours plutôt à vocation opérationnelle, qui est le Master Médiation des Sciences. Donc aujourd'hui, il nous semble que le T de technique est très à propos, évidemment, dans le cadre de la chaire, puisque nous formons des étudiants au métier de la communication et de la médiation scientifique et technique. Donc dans le cadre de cette mention, de nombreux cours sont communs aux deux parcours, un parcours à vocation plutôt recherche, qui est le parcours épistémologie et histoire des sciences et des techniques, et le parcours médiation des sciences. Donc on a des cours en histoire et en philosophie des sciences notamment, qui sont communs à ces deux parcours. Le parcours médiation des sciences concerne des étudiants qui ont une formation scientifique venant des sciences dites fondamentales ou sciences dures, ou qui viennent de formations médicales ou également de philosophie. Sauf dérogation, et on a quelques représentants et représentantes ici dans la salle d'étudiants et d'étudiantes qui viennent de filières plus colorées sciences humaines et sociales. La formation s'attache à tous les domaines de la communication et de la médiation des sciences et des techniques, depuis la stratégie à la conception d'outils. On va en voir un exemple un peu original peut-être cet après-midi. Boris nous en dira davantage tout de suite après. Nous conjuguons des approches théoriques et des mises en œuvre pratiques grâce aux apports d'universitaires et grâce aux apports de professionnels dont je fais partie, puisque je suis professionnelle associée et qu'il est classique, en tout cas à l'Institut des sciences de l'information et de la communication, d'avoir des directions bicéphales, on va dire, dans le cadre de nos masters professionnels en tout cas, avec une co-direction universitaire et professionnelle. Donc on pourrait noter que dans notre master, la place des stages est importante. Les étudiants ont 3 mois de stage obligatoire en M1 et 6 mois de stage obligatoire en M2. Pour autant, nous sommes dans un cursus universitaire, donc les étudiants doivent produire et soutenir un mémoire de recherche, en lien ou pas avec leur contexte de stage, mais en lien en tout cas avec la communication et la médiation des sciences et des techniques. Les objectifs de la formation sont multiples, avec une vocation, je le rappelle, assez opérationnelle. Je vous en donne quelques-uns. Il s'agit pour nous de former les étudiants afin qu'ils connaissent et reconnaissent mieux les enjeux de la communication scientifique pour les différentes parties prenantes d'un processus de communication. Il s'agit de structurer des processus de médiation en ayant recours à des outils variés, des dispositifs innovants, éventuellement interactifs. On pourra en avoir un exemple cet après-midi, collaboratif et participatif. Il s'agit également de permettre aux étudiants d'apprendre à déterminer les retombées et mesurer l'atteinte des objectifs poursuivis par une opération de médiation. Évidemment, je ne suis pas exhaustive quand je donne toutes ces pistes-là, mais elles font partie de ce qui fait la colonne vertébrale, je dirais, de notre master. Très concrètement, et pour terminer là-dessus, concernant les débouchés professionnels, nous formons des étudiants qui deviendront concepteurs ou conceptrices d'événements dans les structures de diffusion de la science, telles que des centres de culture scientifique et technique, donc des CCSTI, techniques et industrielles, CCSTI, dans des muséums, dans différents types d'associations. Nous formons des médiateurs et des médiatrices scientifiques. Nous formons des rédacteurs de la presse médicale ou scientifique et industrielle, des journalistes scientifiques, des responsables de la communication dans les secteurs industriels, de la recherche publique ou privée, des structures liées à la santé, etc. La liste n'est pas du tout exhaustive. Donc je vais laisser la parole à Boris Sionbaz qui va vous parler peut-être plus précisément de ce qui va se passer cet après-midi, mais pas seulement.
Oui, et puis simplement commencer par juste dire quelques mots sur ce qu'on entend par médiation, parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup, qu'on entend souvent et qu'on peut qualifier de mauvaise, c'est-à-dire que même dans les manuels de médiation culturelle, puisqu'on là il s'agit de médiation culturelle des sciences et des techniques d'une certaine façon, même dans les manuels, on rappelle que c'est un mauvaise, et donc on va essayer de se situer nous par rapport à ce qu'on fait évidemment dans le cadre de notre master. Et donc l'idée de médiation, donc en sciences de l'information et de la communication, justement, quand on parle de médiation culturelle, on parle de l'objectif qui vise, alors je vais citer Jean Davalon, qui fait partie des chercheurs spécialisés sur cette question, des dispositifs qui visent à faire accéder à des œuvres ou à des savoirs, je cite, et dans le but, je le cite encore, de construire des interfaces entre d'une part le monde des sciences et des techniques, et d'autre part des publics, avec des problématiques, bien sûr, sans cesse réactualisées en fonction des objets dont il est question. Donc, dans le cadre de notre master médiation des sciences, donc, comme l'a présenté Valérie, concrètement, il s'agit d'une palette de moyens, comme des expositions, des événements, des animations, des articles de presse, des émissions de radio, pourquoi pas, des films documentaires. On peut imaginer tout un tas d'approches médiatiques et événementielles de cette médiation des sciences, avec toujours la volonté, pour reprendre l'expression la plus connue dans ce domaine, c'est celle de Jean-Marc Lévy-Leblond, c'est-à-dire celle de mettre les sciences en culture. Alors, c'est pas parce qu'on le souhaite qu'on y parvient à chaque fois, mais c'est ce qu'on essaie, en tout cas c'est une tentative sans cesse réactualisée. Dans le cadre de la chaire RICET, qui porte donc sur les réseaux électriques et les sociétés en transition, et lorsque l'organisation de cet événement de rentrée nous a été confiée, il me semblait intéressant de nous attarder sur des objets tangibles qui nous relient à l'électricité, qui nous relient au réseau, et de porter un regard sur la place de l'électricité également dans les institutions culturelles et dans le patrimoine. Et donc également de porter un regard sur le réseau électrique autour de nous, tel qu'on peut l'apercevoir dans le paysage, je dirais, même au quotidien. Donc on a organisé un quasi-événement, j'allais dire, c'est pas forcément exactement le cas, mais un quasi-événement de culture scientifique sur le campus, en deux temps, avec dans un premier temps une conférence, et dans un second temps une visite guidée. Donc le titre de la journée, c'est « Une journée entre le visible et l'invisible, la technique et la société ». Le parti pris, c'est, à travers cette conférence et cette visite guidée, je vais y revenir un peu plus tard, d'aborder donc le réseau entre le visible et l'invisible, en partant d'une idée assez commune, en fait, c'est que le réseau électrique, il est à la fois omniprésent, et en même temps, il peut paraître méconnu et insaisissable, et qui peut être aussi un objet de curiosité pour tous. Donc qu'est-ce qu'on peut voir du réseau quand on se promène dans la rue ou sur un campus? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui et dans le passé? Et qu'est-ce que tout ça peut devenir ensuite? Pourquoi pas? Donc voilà, je vais revenir simplement sur les deux temps pour essayer de respecter cette idée initiale. Donc on vous propose une conférence effectivement de Lionel Dufault, à qui je céderai la parole ensuite, donc conservateur au Musée des Arts et Métiers à Paris, responsable des collections de la section énergie et transport, également chercheur en histoire des techniques. Donc bien sûr, on le remercie d'abord d'avoir accepté notre invitation. Donc il va nous présenter une conférence intitulée « Les multiples facettes des collections d'électricité du Musée des Arts et Métiers ». Donc, Lionel Buffon nous propose d'aborder l'électricité à travers un parcours dans les collections du Musée des Arts et Métiers qu'il connaît très bien, et d'approcher d'une certaine manière le réseau, la notion de réseau électrique, avec finalement une mise en perspective électrique, historique pardon, de l'électricité, et puis principalement à travers la dimension patrimoniale, et en soulevant peut-être quelques questions de muséographie spécifiques aux objets liés à l'électricité. Et dans un deuxième temps, donc, on va vous proposer de sortir de la maison de la recherche pour une visite sur le campus, une sorte de promenade sur le campus, pour découvrir les éléments du réseau électrique qui se trouvent autour de nous. Donc l'enjeu, c'était de porter un regard sur des objets techniques, certains qui sont invisibles, certains qui sont un peu plus visibles, et certains qui sont visibles mais qui sont tellement évidents qu'on ne les perçoit plus. Donc il s'agit de parler de ce qu'on ne peut pas voir directement, et ça fait partie des défis qui sont courants en médiation des sciences. Et puis c'était une manière ici d'animer les thématiques de la chaire. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. La visite guidée, c'est une sorte de médiation qu'on qualifie de présentielle, qui est assez classique quand on pense aux journées du patrimoine ou de la visite d'un site naturel. Là, ici, le lieu du campus peut sembler un petit peu atypique. L'idée était d'instaurer une relation directe avec un public pour animer justement autour des thématiques de la chaire. Donc la visite a été préparée par 4 étudiants, je vous les présenterai ensuite. Je vais juste revenir un petit peu sur le travail des étudiants. Les étudiants se sont énormément impliqués, je tiens à le souligner, dans la préparation de cette visite que j'ai eu le plaisir d'encadrer. Je voulais souligner l'intérêt pédagogique également de la conception et de la préparation d'une telle visite, qui a été rendue possible par ce contexte de la chaire RICET, de son interdisciplinarité et des rencontres qu'elle permet. Donc, première chose, les étudiants, donc pour rappeler un petit peu leur démarche, ils ont effectué des repérages sur le terrain, sur le campus, de nombreuses reprises. Ils ont effectué évidemment des recherches documentaires, mais ils ont aussi rencontré des professionnels d'Enedis qui leur ont fourni des informations, une expertise, une validation technique certes, mais également une vision du terrain et puis une écoute. Des étudiants, je tiens à le souligner aussi, lorsque les étudiants se sont appropriés cette thématique, ce qui était un préalable indispensable pour l'élaboration d'une telle visite. Donc cette possibilité d'un échange entre des étudiants de sciences inscrits dans une UFR de sciences humaines, d'une part, et des professionnels, d'autre part, d'un domaine qu'on identifie comme étant plutôt technique, évidemment, est en soi un point très important. Avant même, je dirais, le déroulement de cette visite, ça fait partie du hors-champ de cette journée dont je peux un petit peu témoigner, mais c'est une première source de satisfaction, je tenais à le souligner. Ensuite, ça a engendré également une difficulté pour les étudiants, c'était d'intégrer une multiplicité de discours et, je dirais, de faire tenir ensemble cette diversité, cette multiplicité de discours dans un partage avec un public, qui est le public de la conférence également. Donc, effectivement, comme je le disais, pas seulement une recherche documentaire, mais également faire tenir ensemble des discours qui viennent des professionnels, des discours scientifiques, techniques, et, je dirais, le propos des étudiants eux-mêmes, qui ont beaucoup échangé entre eux sur les thématiques abordées. Donc, on les a laissés s'approprier assez librement les thématiques de la chaire, je tiens à le souligner également. Et je pense que cet exercice peut être profitable et qu'il a commencé par nous apporter, je dirais aussi, un regard extérieur sur les thématiques de la chaire. Tout ça a permis d'imaginer, de concevoir une visite qui va vous être proposée. Donc évidemment, en médiation scientifique, on aime bien privilégier une diversité, une multiplicité de supports et le recours à des objets, donc montrer des objets, utiliser des supports variés que vous pourrez découvrir. Je vais juste présenter les étudiants que je vous invite, et c'est très important, à suivre à l'issue de la conférence. Ils sont dans la salle, alors peut-être qu'ils peuvent se manifester. Voilà.
Le numéro, un grand fanant.
Donc les 4 étudiants, alors je précise parce qu'on a une mobilisation importante de l'ensemble des promotions de M1 et de M2 médiation des sciences. Mais là, je cite, les 4 étudiants que vous voyez ici, ce sont eux qui ont conçu et qui vont animer la visite sur le campus, donc qui étaient chargés du projet dans le cadre d'un projet tutoré en M1. Et donc, il s'agit d'Estelle Baude, Thomas Boniface, Lucille Delcampo et Bérangère Subervie. Ils sont équipés d'un petit badge, comme vous avez pu remarquer. Donc voilà, à l'issue de la conférence de Lionel Dufou, à qui je vais laisser la parole tout de suite, je vous invite à suivre, à vous rapprocher des étudiants et à les suivre ensuite. On va constituer des groupes, quatre groupes. On a quatre animateurs, donc on va constituer quatre groupes. Et voilà, on va faire ça pour une visite qui va durer, j'ai oublié de le préciser, merci Valérie, pour une visite qui va durer une heure à peu près. Voilà. Il fait beau, on a de la chance, donc ça oui. une excellente.
Je craignais occasion. Véritablement la glace, la neige, la tempête absolue, que les pylônes tombent. Donc on va laisser, merci beaucoup Lionel, s'installer. Donc je reviens le temps qu'il s'installe. Je voudrais souligner qu'effectivement c'est très original, une collaboration directe entre les étudiants médiateurs et l'ensemble donc, des techniciens, véritablement, donc une entreprise. Ça fait partie d'une des dimensions de la chaire qui était demandée par Enedis, c'est-à-dire une appropriation, une intégration par rapport aux besoins de l'entreprise elle-même. Et j'ai oublié de souligner d'entrée également que ce n'est pas véritablement l'événement de rentrée. Nous avons eu déjà des événements de valorisation sur des stages qui ont été réalisés sur la thématique de la précarité énergétique avec deux stagiaires, une stagiaire de sociologie, Marion Ombron, et un stagiaire donc d'histoire, Benjamin Jou. Voilà, ça permet maintenant conférencier, on peut regagner, écouter religieusement.
Merci beaucoup. Merci, merci aux organisateurs de la chaire de m'avoir proposé de participer aujourd'hui. Je suis très content de pouvoir vous parler un peu d'histoire des techniques, de patrimoine. Évidemment un peu de médiation aussi, de réseau, et de voir comment finalement on peut inscrire ces notions-là dans le temps en se servant de traces matérielles du passé qu'on peut conserver dans les collections. On va y revenir. Donc, comme on vous l'a dit, je travaille au Musée des Arts et Métiers, où je fais partie de l'équipe de conservation, et j'ai plus spécialement la charge des collections qui ont trait avec les thématiques de l'énergie et des transports. Le musée des arts et métiers à Paris, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un musée où on propose aux visiteurs de découvrir l'histoire de l'innovation et du progrès technique depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, à travers une collection assez pléthorique, qu'on dénombre à peu près 80 000 objets dans cette collection, plus de 20 000 dessins. Et c'est une des plus anciennes collections publiques au monde sur la thématique de l'histoire des techniques. On a un parcours permanent, musée organisé en 7 grandes sections, et la section dédiée à l'énergie, dont vous voyez la salle, je suis désolé, les images sont malheureusement déformées par la projection. Le département dédié à l'énergie propose de présenter un certain nombre de filières énergétiques, pour certaines devenues un peu obsolètes, pour d'autres au contraire bien plus actuelles, à travers la présentation d'objets patrimoniaux de nature très variée, puisqu'on va y voir des modèles de moulins à vent, de roues et de turbines hydrauliques, de machines à vapeur, de moteurs à combustion interne et évidemment des appareils électriques. Et pour faire le lien entre tout ça, le discours est centré autour de la notion de conversion de l'énergie, qui est un concept qui a été privilégié il y a une vingtaine d'années quand on a rénové le musée, parce que cette conversion de l'énergie, c'est-à-dire la transformation par exemple d'une énergie mécanique d'une machine à vapeur en de l'énergie électrique, c'est une notion finalement qui est suffisamment transversale pour interpréter la totalité des collections. Et finalement, on a choisi cette notion au détriment de concepts beaucoup plus attendus sur le sujet, comme par exemple la production ou la consommation, même si ce sont évidemment des questions qu'on aborde. Cette collection, je vous le disais, plus de 80 000 objets, il y a un bon millier d'objets en fait qui constituent le corpus relatif à la thématique de l'électricité, et on verra que c'est une notion là aussi assez large. L'essentiel de cette collection, elle est conservée dans des réserves qui ont été construites il y a là aussi une vingtaine d'années à Saint-Denis, au nord de Paris, dans un équipement qui nous permet aujourd'hui non seulement de conserver la collection, mais également de l'étudier. Vous voyez que les objets sont rangés, pour certains d'entre eux, directement sur des étagères à portée de regard, hein, ce qui permet d'interroger ces collections et de leur poser un certain nombre de questions, et surtout pour nous d'essayer de les interpréter. Réglementairement, dans les musées publics, les musées qui ont l'appellation Musée de France, on est obligé de faire une opération qui s'appelle le récollement décennal des collections, c'est-à-dire que On prend tous les objets et on vérifie que ce qui est marqué sur l'inventaire des collections correspond bien à la réalité, que chaque objet est au bon endroit et qu'il est en bon état de conservation. Donc autant vous dire qu'avec une collection aussi importante que celle-ci, ça peut mettre du temps. On dépasse en fait les 10 ans que le ministère de la Culture nous donne pour faire cette opération. Mais l'avantage du récollement, c'est que finalement, on a pu redécouvrir certains corpus, et notamment le corpus de l'électricité. À cette occasion, j'ai pu reprendre l'inventaire, par exemple, des machines électromagnétiques qu'on conserve dans la collection, mais également réinventorier la collection d'éclairage électrique, ou encore d'engager une opération de conservation sur nos collections de piles, les piles étant des objets qui, matériellement, sont très instables dans le temps. C'est normal, puisque c'est la réaction chimique qui produit le courant électrique, et donc on a des matériaux qui vieillissent pas forcément très bien ensemble dans le temps. Ces opérations nous permettent de confirmer que la collection du Musée des Arts et Métiers est extrêmement riche sur le sujet et qu'elle ne connaît pas d'équivalent en France, à l'exception notable du musée Electropolis, géré par EDF, qui se trouve à Mulhouse, que je vous engage à aller visiter, parce que c'est un musée très très intéressant sur cette question-là. Alors, quand on dépouille ce que nous appelons dans notre jargon les sources de gestion, c'est-à-dire tous les inventaires, les catalogues anciens, toute la documentation et les archives qui ont été constituées au fil du temps autour des collections, on a la confirmation de la richesse du fonds relatif à l'électricité. En 1851, au moment de l'exposition universelle de Londres, on dénombre 193 objets qui ont trait à l'électricité dans la collection. En 1905, il y en a 549, soit une augmentation de 185% en une soixantaine d'années, ce qui révèle aussi l'importance non seulement de la recherche, du travail des savants et des industriels dans le domaine au cours du 19e siècle. Et à partir des données que l'on collecte, on peut essayer de construire une réflexion scientifique, muséographique, de valorisation également autour des collections, en gardant bien à l'esprit que les objets d'une collection de musée, quels qu'ils soient, que ce soit des œuvres d'art, de l'archéologie ou des objets scientifiques ou techniques, c'est la première source de documentation sur la collection du musée, et les objets sont la première source pour documenter les objets eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie un objet, qu'on essaye de le décrire, d'identifier ses matériaux, de relever les inscriptions qui vont qu'ils peuvent comporter, de voir s'ils ont été modifiés, transformés dans le temps, on a déjà un certain nombre d'informations qu'on peut capter et qui vont nous apprendre beaucoup de choses sur les objets, des informations qu'on va croiser avec d'autres sources, en bon historien, donc on va chercher dans les registres d'inventaire quand l'objet est entré dans la collection et dans quel cadre, est-ce qu'il a été donné, est-ce qu'il a été offert, est-ce qu'il a été acheté. On va essayer de chercher également quelle a été l'utilisation de ces collections. Le musée des arts et métiers, je vais y revenir dans un instant, n'a pas toujours été un musée tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est une collection qui a été constituée à des fins pédagogiques au départ. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi ces objets ont été intégrés dans la collection. Et on peut faire ça objet par objet, mais également dans des corpus plus ou moins larges. On est assez libre là-dessus. Et du coup, on peut se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que cette collection va nous apporter sur le plan de l'histoire des sciences, des techniques et de l'industrie? Quelle connexion peut-on faire avec d'autres fonds patrimoniaux? Quelle vulgarisation, quelle valorisation on peut imaginer pour ces objets? Est-ce qu'on part sur un terrain de vulgarisation scientifique et d'un discours finalement d'interprétation à partir des objets? Ou est-ce qu'on essaie de les confronter à d'autres fonds, à d'autres disciplines, par exemple le travail d'artistes contemporains, ce qu'on a pu faire par le passé au musée, qui s'est révélé extrêmement enrichissant aussi. Et donc, voilà, avec un musée finalement assez ancien, une collection riche, on va voir qu'on a là quelques exemples intéressants, dans lesquels la notion de réseau apparaît de manière... j'avais écrit dans mon papier périphérique, c'est pas tellement périphérique, c'est plus en filigrane, c'est-à-dire que c'est une notion qui arrive, mais on va voir que c'est pas forcément dans la constitution des collections le paramètre clé qui a été retenu par le passé. Alors, avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, je vais pas être trop long sur cette partie-là, mais ça me paraît important de vous parler du musée des arts et métiers, de son histoire et de sa collection en général, pour que vous ayez quelques jalons pour comprendre dans quel contexte on va s'inscrire. Le musée des arts et métiers, c'est un des services du Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, qui est un établissement public qui relève du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On a un statut équivalent à celui des universités. On fait partie de la famille des grands établissements. Donc on n'est pas, le musée des arts et métiers n'est pas un musée du ministère de la Culture. C'est un musée de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et de la recherche selon la formation des gouvernements. Au même titre que le Muséum national d'histoire naturelle, le musée du Quai Branly, ou encore le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences, mais qui, eux, ne conservent pas de collection à proprement parler. Le CNAM, c'est une vieille maison, puisqu'elle a été créée en octobre 1794 par décret de la Convention nationale sur le rapport de l'abbé Grégoire, qui était député du tiers-état, avec l'idée de rassembler en un endroit les outils, machines, descriptions, dessins et livres utiles au perfectionnement de l'industrie nationale, et d'apporter finalement, de créer un établissement qui se substituerait aux anciennes corporations métiers jurandes qui avaient été supprimées par la Révolution. L'idée de rassembler comme ça des outils et des machines techniques dans un seul dépôt d'invention n'est pas neuve en 1794. Il existe déjà des collections, quelques collections préalables, mais assez disséminées. L'une des plus importantes, c'est celle qui est constituée par un très grand mécanicien qui s'appelait Jacques Vaucanson, chargé par Louis XV de perfectionner l'industrie de la soie en France. Et Vaucanson, sur des crédits de la couronne, constitue une première collection de machines-outils, de dessins et de livres qui va former en fait l'embryon primitif des collections du CNAM. À cela, on rajoute des machines provenant du cabinet des machines de l'Académie des sciences, qui elle aussi a été supprimée par la Révolution, et puis des biens d'émigrés qui ont été placés sous séquestre, examinés par la Commission temporaire pour les arts, exactement comme la constitution des grandes collections d'œuvres d'art se fait au même moment à la Révolution. On va très vite doter ce Conservatoire des arts et métiers de démonstrateurs, je reviendrai sur ce terme, de dessinateurs. On y installe un atelier d'entretien des collections et très vite une bibliothèque chargée de constituer un des premiers fonds de bibliographie technique avec des ouvrages qu'on ne trouve dans certains cas même pas à la BNF puisque la démarche prospective du CNAM était très très particulière. Et en 1798, on installe cet établissement un peu original dans l'ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs, qui est une ancienne abbaye bénédictine, dont la communauté a été décimée 4 ans plus tôt, et c'est encore aujourd'hui le siège du CNAM, et là où se trouvent les galeries du Musée des Arts et Métiers. Le CNAM va ouvrir ses portes en 1802, avec plusieurs missions qui lui sont confiées. Premièrement, une mission de diffusion des connaissances techniques par le biais de la démonstration. L'idée, donc on parle de médiation aujourd'hui, mais il y a un peu de ça dans cette idée-là, c'est de confier à des démonstrateurs le soin de mettre en marche des machines, de manipuler des outils devant le public, un public composé pour l'essentiel d'ouvriers et d'artisans, et de leur expliquer ce qui est neuf et utile dans telle ou telle invention. On parle de conservatoire des arts et métiers, non pas parce qu'on y conserve des objets, mais parce qu'on y transmet un savoir-faire ou un geste, exactement comme ce qu'on fait dans un conservatoire de musique ou un conservatoire de danse. On imite, on fait le geste, on le regarde et on le reproduit. C'est un peu l'idée. Et l'expression arts et métiers est à prendre dans sa globalité, désigne d'une manière générale les sciences appliquées à l'industrie. On est là encore dans une terminologie héritée du XVIIIe siècle. Autre mission, une mission d'incitation au progrès technique en repérant des innovations en français à l'étranger qu'on juge opportun de faire entrer dans les collections. Et puis, troisième mission, une expertise au nom de l'État pour les pouvoirs publics sur de nouveaux procédés. Par exemple, on a testé la culture de la betterave sucrière, on a essayé de nouveaux types de machines à vapeur, on a fait des expériences sur l'aérostation dans le jardin du CNAM au tout début du 19e siècle. Dans son fonctionnement, le conservatoire, des premières heures, il s'ancre dans une tradition issue de l'Ancien Régime, de transmission orale du savoir, comme ça pouvait exister entre le maître et l'apprenti, ou le père et son fils, dans certains cas, dans certaines filières industrielles. Ce modèle initial ne fonctionne pas si bien que ça, parce qu'on manque de place et on manque beaucoup de moyens. la chute du blocus, la chute du premier empire et la fin du blocus continental contre l'Angleterre révèlent quand même un certain retard de l'industrie française par rapport à sa rivale britannique, et en 1819, on décide de réorganiser le CNAM et d'y installer des chaires d'enseignement. Trois premières chaires sont créées, sur le modèle de ce qui se fait dans les facultés de l'université ou au Collège de France, ou encore au Muséum, et des chaires que l'on va confier à des personnalités issues du monde savant et industriel, qui vont être en mesure d'apporter des éléments théoriques, mais toujours connectés à la pratique, en s'adressant à un public qui vient assister à des leçons, et un public pour lequel on ne parle pas d'étudiants, ou d'élèves, mais on parle d'auditeurs. Le CNAM avait la particularité, et ça a duré pendant très longtemps, de proposer ses cours de manière gratuite, sans condition de diplôme ni de nationalité, ce qui était extrêmement particulier et un peu atypique dans le système éducatif. Et donc, on va confier les trois premières chaires à des hommes assez influents à cette époque-là, notamment Jean-Baptiste Say pour tout ce qui est l'économie et le développement de l'économie libérale, et Charles Dupin, dont le nom aujourd'hui est un peu tombé dans l'oubli, mais Dupin était un personnage très très important du début du 19e siècle, un vrai touche-à-tout dans plein de filières scientifiques, et quelqu'un qui a beaucoup voyagé, notamment en Angleterre. Le conservatoire va fonctionner comme ça au XIXe siècle, avec d'un côté des enseignements qui se font dans l'amphithéâtre, avec le professeur assisté de son préparateur qui présente un certain nombre de principes, de procédés, toujours vus sous l'angle de l'innovation, de la nouveauté et de l'utilité pour l'industrie. Il ne s'agit pas de représenter une invention qui, sur le papier, est intéressante, mais qui n'aurait aucun intérêt pour les industriels. Le CNAM est là pour expertiser et pour apporter des éléments qui vont servir à soutenir le développement de l'industrie française. Et pour ce faire, on peut déplacer des objets ou des instruments dans l'amphithéâtre où le professeur va procéder à des expériences devant les auditeurs. Et parallèlement à ça, les professeurs contribuent à l'enrichissement des collections qui sont à côté des amphithéâtres. On constitue des galeries. À l'origine, on avait des collections plutôt centrées sur les thématiques de l'agriculture, de la construction et du textile, et qui vont très vite s'étendre à d'autres domaines, la métallurgie, les chemins de fer, et puis évidemment l'électricité dans la seconde moitié du 19e siècle. Cette connexion entre enseignement et collection, elle va s'estomper au fil du temps, dès la fin du 19e siècle et surtout au cours du 20e siècle, parce qu'il y a une vraie dissociation. Les enseignants ont de moins en moins besoin, au début du 20e siècle, de convoquer des objets techniques pour leurs leçons. Et finalement, la collection va prendre une vraie valeur historique. Certains objets obsolètes sont maintenus en collection parce que, justement, ils ont une forte valeur historique. Et ce principe ne fera que s'accentuer au cours du XXe siècle, jusqu'à dessiner les contours d'un véritable musée. On parle du Musée national des techniques dans les années 1960-70. Et c'est dans ce musée qu'émerge en partie la discipline, le champ disciplinaire de l'histoire des techniques en France. Et puis, à la fin des années 1990, le musée est rénové dans le cadre des grands travaux de l'État. Il n'y a pas eu que la grande bibliothèque et l'Opéra Bastille. Le musée du CNAM a lui aussi fait l'objet d'un grand chantier de rénovation, de la construction de nouvelles réserves qui sont aujourd'hui notre héritage le plus direct. Alors, revenons à l'électricité. Comment constitue-t-on une collection d'électricité? Comment tout cela commence? Dès la fondation de l'établissement, se pose la question de faire venir des objets relatifs à la physique en général et un peu à l'électricité. Dans les fonds provenant de l'Académie des sciences figurent des instruments, par exemple, de Louis-Léo Pajon d'Oncembray, première grande collection d'instruments scientifiques que l'on trouve au conservatoire, et surtout l'achat en 1807 par Napoléon Ier et attribution au CNAM du cabinet de physique de Jacques-Alexandre César Charles étant son patronyme. Charles, le nom ne vous dit certainement pas grand-chose, et pourtant c'est un savant qui réunit à la fin du XVIIIe siècle à Paris un cabinet de physique considérable, considéré à l'époque comme l'un des plus riches d'Europe occidentale. On y recensait en 1792 330 pièces. Et lorsqu'en 1818, nous avons imprimé le premier catalogue des collections au conservatoire, on dénombrait dans le cabinet de physique à peu près 600 pièces, dont 84 items en lien direct avec l'électricité. Ce cabinet de physique au conservatoire, il sert non seulement de laboratoire pour réaliser des expériences, mais également de support de formation, puisque le physicien Charles se rend dans le cabinet de physique et très régulièrement, il fait des démonstrations dans la tradition des cabinets du XVIIIe siècle où on faisait des expériences et en même temps des expériences qui avaient un caractère parfois spectaculaire, voire amusant, pour frapper les esprits. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce cabinet ? Beaucoup d'objets, des machines électrostatiques comme celle-ci qui appartenait à Ferdinand Michel Albert d'Ailly, duc de Chaulnes. C'est probablement la plus grande machine électrostatique qui a été fabriquée au XVIIIe siècle. L'idée, c'est qu'on fait tourner le plateau en verre avec une manivelle, le plateau frotte avec les pièces textiles, c'est de la soie, ça génère par frottement d'électricité statique. Et l'électricité qu'on va récupérer, ça fait des étincelles extrêmement puissantes. Ça génère un courant en fait de tension très élevée. Et du coup, on réalise un certain nombre d'expériences très spectaculaires avec ce type de machine. On fait des expériences aussi sur la question de la conduction, de la conductibilité des matériaux. Et par exemple, on essaye de faire passer un courant électrique dans différents matériaux, dans différents fils métalliques en l'occurrence, et on essaye de voir quels sont les matériaux qui résistent ou pas au courant électrique. Et donc ce sont des expériences dites de volatilisation. Ce cabinet de physique, il comprend des bouteilles de Leyde, qui est un des instruments très classiques qu'on trouve les instruments d'électricité au XVIIIe siècle. C'est l'ancêtre du condensateur, en fait, qui permet de récupérer des étincelles et de les décharger. Et puis des objets plus amusants, par exemple le carillon électrique, qui traversé par un courant se met à sonner, ou le ballon étincelant qui... vous avez des étincelles qui se produisent à l'intérieur et qui donnent un aspect assez spectaculaire. Et puis, bon, il n'y a évidemment pas que des objets pour l'amusement, il y a aussi des objets qui sont très importants dans le plan de l'histoire des sciences. Charles fait l'acquisition auprès d'Alessandro Volta de piles voltaïques. Celle-ci date de 1799, c'est une des plus anciennes. Donc, empilement de différents morceaux de métal. Entre lesquels on a intercalé des petits morceaux de feutrine et tout ça baigne dans une solution salée et ça, le métal en fait en se dissolvant génère un courant électrique. Ce cabinet de physique, son histoire elle est un peu liée, même beaucoup liée à l'histoire plus globale du conservatoire. Je vous ai dit que après 1815, en gros, on s'est dit qu'il fallait réformer le conservatoire. On y installe des premières chaires. Il n'y a pas de chaires au départ liées à la physique et à l'électricité. C'est toujours Charles qui vient de temps en temps faire des démonstrations dans le cabinet. Autant dire que ça reste très confidentiel et que ça touche un public extrêmement réduit. Après la mort de Charles, on décide de s'intéresser davantage aux recherches sur l'électricité. Et on va constituer au conservatoire la première chaire de physique appliquée aux arts que l'on confie à Claude Pouillet. Pouillet, pareil, c'est pas un nom très connu, et pourtant c'est un savant très important de la première moitié du 19e siècle. Pouillet s'intéresse à plein de questions physiques, et c'est un personnage qui va être influent dans les années 1830, parce qu'il était maître de physique des enfants de la famille d'Orléans. Donc autant dire que l'arrivée de Louis-Philippe en 1830 comme roi des Français va donner à Pouillet une assise institutionnelle importante et va le conduire à devenir pendant une quinzaine d'années directeur du CNAM. Pouillet, il incarne bien ce que sont les professeurs du conservatoire au 19e, c'est-à-dire des vrais pivots entre le monde savant d'un côté et le monde industriel de l'autre, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de faire des expériences et d'être de plus en plus rigoureuses dans la manière dont on fait les expériences. Pouillet, dans ses écrits, dit qu'il privilégie une démarche scientifique en renonçant à toute spéculation. Et l'idée de faire d'établir des protocoles précis, de lister les outils, les instruments utilisés, de consigner les résultats, ça fait partie de la rigueur du scientifique. Et Pouillet, il va s'intéresser à pas mal de sujets de recherche assez fondamentales sur les phénomènes électromagnétiques, sur l'électricité des fluides élastiques, sur les causes de l'électricité dans l'atmosphère, à un moment où la foudre reste encore un phénomène que l'on ne comprend pas très très bien. Et puis il s'intéresse également à des sujets plus liés à l'application de la science et son utilité pour l'industrie. Et il essaye notamment de voir quels usages on peut faire de la pile de Volta dans le monde industriel. Ces recherches, on les retrouve dans les collections avec ce que nous appelons la pile de Pouillet, qui est une pile thermoélectrique, c'est-à-dire une pile qui a la propriété de générer un courant relativement faible, mais néanmoins existant, lorsqu'on applique deux températures très différentes aux extrémités d'une même pièce métallique. Et dès lors que la température est maintenue constante, le courant, lui aussi, va être constant. Donc, Pouillet va beaucoup s'intéresser à ces questions-là. Il va beaucoup s'intéresser aux piles, qui sont à ce moment-là le moyen le plus simple d'avoir de l'électricité potentiellement utilisable. De l'électricité qui va servir par exemple à animer des petites sonnettes ou de menus objets. Et Pouillet s'intéresse à la manière dont on peut utiliser cette énergie, notamment dans certains petits moteurs, dans la galvanoplastie qui est en train d'apparaître, et puis surtout dans la télégraphie électrique qui apparaît dans les années 1840. Alors on parlait de réseau, typiquement la télégraphie c'est pas vraiment un réseau électrique au sens réseau de production, distribution comme on l'entend aujourd'hui, et pourtant ça constitue un des tout premiers réseaux qui se répand avec l'électricité, puisque les lignes de télégraphe vont suivre le développement des grandes lignes de chemin de fer. La première liaison télégraphique permanente est établie entre Paris et Rouen en 1843. Et donc, le Conservatoire des Arts et Métiers, lui, tout de suite, repère avec ses professeurs ce progrès tout à fait important, le fait rentrer dans ses collections et le traite dans ses enseignements. Et il y a comme ça un aller-retour permanent entre la transmission des connaissances et la constitution d'une collection qui est un support de connaissances. Pouillet va être écarté du conservatoire en 1849, lors de l'élection du prince président. À la même époque, on décide que le cabinet de physique ne doit plus être une salle particulière peu visible par le public, mais qu'elle doit devenir une vraie galerie, au même titre que les autres collections que nous avons au conservatoire. Et donc tous les instruments sont inventoriés à ce moment-là et deviennent des collections présentées dans une galerie ouverte au public. Pouillet est remplacé à la chaire de physique appliquée aux arts par Edmond Becquerel, qui est, je crois, le frère d'Antoine César Becquerel, qui a un parcours déjà académique solide puisqu'il est passé par le Muséum d'Histoire Naturelle et la Faculté des Sciences de Paris, où il était suppléant pour les chaires de physique. Il est nommé au Conservatoire des Arts et Métiers et il va focaliser ses enseignements sur un certain nombre d'applications de la physique à l'industrie. Il déploie un cours sur 2 années qui aborde des notions relatives à la physique générale, donc tout ce qui a trait par exemple à la chaleur, à l'acoustique et aux instruments d'optique. Et la seconde année, il aborde des thématiques plus applicatives comme l'électricité et la photographie, par exemple. Il publie un traité d'électricité et de magnétisme, leurs applications aux sciences physiques, aux arts et à l'industrie, en 1855-56. Il s'intéresse beaucoup à l'électrochimie, à la galvanoplastie, à la dorure des métaux, à la télégraphie électrique, aux horloges et moteurs électriques. Donc on voit un certain nombre d'applications qui sont en train d'apparaître dans le monde industriel, qui sont tout de suite relayées par le conservatoire. Les sommaires de ces cours sont publiés dans une revue des cours scientifiques qui permet de voir un peu le déroulement de ces leçons. Il parle d'électricité atmosphérique, de la loi d'Ohm, des piles électriques, du calcul des rendements, des applications de l'électrolyse à la galvanoplastie, à l'impression des billets de banque, à la dorure des métaux, à l'éclairage au gaz. Pardon, il s'intéresse aussi à l'éclairage au gaz et à l'arc électrique. Et il va faire lui-même conduire un certain nombre de recherches sur les piles, des piles pour lesquelles on va s'attacher à chercher des dispositifs qui vont être plus durables dans le temps, fournir une plus grande énergie, et des piles pour lesquelles on va également s'intéresser à la question de la facilité d'utilisation. C'est-à-dire que ça, c'est une notion, l'innovation des fois réside dans des petites notions comme ça, dans des petits détails, mais la facilité d'utilisation d'un procédé, le fait que vous n'ayez pas à faire appel à un spécialiste pour changer votre pile ou pour la recharger, c'est quelque chose qui compte beaucoup à cette époque-là. Alors, les collections, elles montrent un intérêt pour d'autres, un nouveau type d'objet qui vraiment prend grande importance à cette époque-là. Ce sont les machines magnétoélectriques, c'est-à-dire des machines dans lesquelles on a un aimant qui génère un courant électrique en perturbant un champ magnétique. En voilà un exemple, il y en a d'autres, ce sont des machines vraiment de laboratoire. Ce sont des machines qui ne sont pas destinées à produire de l'électricité, enfin là les exemples que je vous présente, hein. On ne produit pas de l'électricité réellement exploitable, mais on fait des expériences, on essaye de comprendre comment ça marche et quels sont les phénomènes que l'on peut expliquer avec ce type d'objet. Et puis à côté de ça, on va mener toujours des expériences parfois spectaculaires, par exemple en perforant un carreau de glace, un carreau de verre, avec une étincelle, à l'aide d'une machine électrique qui était présentée dans les galeries du conservatoire, et on fait comme ça des démonstrations publiques assez spectaculaires. On fait également, là il y a même un côté assez graphique, des photographies d'étincelles, c'est-à-dire qu'on change de matériaux, on change de réceptacle pour l'étincelle, et on essaye de voir comment ces étincelles évoluent. Alors je vous ai mis qu'une seule photo, mais on a une série avec une quarantaine d'images qui permettent de voir toutes les variétés de formes d'étincelles électriques qui peuvent exister. Certaines ont des formes de plumes, d'autres d'arbres, d'autres sont beaucoup plus... on ressemble vraiment à des éclairs de foudre. Voilà, donc on fait pas mal d'expériences. Il y a évidemment la connexion avec le développement de la photographie à la même époque, et des techniques qui permettent de capter et de fixer sur l'image, sur le papier, en fait, ces phénomènes assez furtifs. Parmi les expériences que l'on fait, beaucoup d'expériences autour des régulateurs à arc. Vous en avez ici un qui provient d'un laboratoire, mais les régulateurs à arc sont des lampes électriques dans lesquelles on génère un arc, donc une étincelle assez bleutée, entre deux pièces de charbon, et on a comme ça un éclairage extrêmement puissant, extrêmement blanc, ce qui change de la bougie ou de la lampe à huile, qui provoque un éclairage plutôt jaune, et ce qui change également du bec de gaz, qui va donner un éclairage vert un peu plus blafard. Et l'arc électrique, non seulement est un mode d'éclairage relativement propre, une notion d'hygiène très importante, c'est un éclairage plus sécurisé, et c'est notamment pour éclairer des grands espaces comme les halles de gare, les banques, les grands magasins. C'est un mode d'éclairage qui va connaître un très très grand succès dans la seconde moitié du 19e siècle. On parlait de fée électricité, c'est pas encore exactement la fée électricité, c'est un peu plus tôt, mais c'est la grand-mère de la fée électricité qui est en train d'apparaître. Toujours dans les expériences amusantes, les tubes de Geissler, ce sont des tubes dans lesquels on peut faire le vide et on enduit les parois du verre avec des substances différentes. On peut remplir certains tubes avec des gaz rares, par exemple. Et quand on fait traverser ce tube par un courant électrique, il y a des réactions qui se produisent et qui provoquent généralement des lumières très colorées, très vives. Tout cela pouvant servir pour des décors de théâtre ou de l'éclairage à caractère publicitaire là on est dans un cadre plutôt lié à l'expérience et à l'édification du public. À côté de ces choses un peu amusantes se trouvent des objets très significatifs dans l'histoire de l'électricité qui apparaissent au début des années 1880, notamment la machine dynamo électrique de Graham. Donc il y a toujours une machine avec un aimant qui perturbe un champ magnétique. Cette machine, on la fait fonctionner avec une machine à vapeur ou un petit moteur thermique à côté qui va faire tourner l'aimant et ça génère un courant électrique. Alors on n'est pas dans la notion de réseau encore tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire la prise ou l'interrupteur que vous avez dans chacune des pièces chez vous. Mais il y a déjà cette idée d'un réseau à l'échelle locale, c'est-à-dire qu'on installe la machine dans un immeuble ou dans une usine ou dans un équipement quel qu'il soit et on produit l'énergie sur place pour la distribuer à l'intérieur de ce bâtiment. Donc il y a déjà un réseau qui existe à l'échelle de l'immeuble ou de la maison ou de la gare, par exemple. Autre exemple de petits appareils qui sont utilisés, de petits appareils électriques, c'est un moteur électrique de Gustave Trouvé de 1881. 1881 étant une date clé dans l'histoire de l'électricité, puisque c'est l'organisation à Paris de l'Exposition internationale d'électricité qui marque une vraie, je veux pas dire une rupture, mais en tout cas une étape très très forte. C'est la première fois où, en gros, on consacre le fait que l'électricité est, sinon l'énergie du futur, en tout cas une énergie fondamentale pour le développement, la suite du développement industriel. Et justement, comme l'électricité apparaît comme quelque chose d'extrêmement important, on se rend compte au conservatoire que la chaire de physique appliquée est peut-être pas suffisamment dynamique sur ce plan-là. Et en 1890, on va créer une nouvelle chaire que l'on dédie à l'électricité industrielle, et elle est confiée à Marcel Depré, qui est un ingénieur de l'École des Mines. Depré, il nous intéresse pour la question du réseau, parce que c'est un des premiers savants qui va s'intéresser à la question du transport de l'électricité. Il pose déjà ces questions-là lors de l'exposition de 1881. Il présente un dispositif de production et de distribution de l'électricité. Et le cours qu'il va donner au CNAM est un cours dédié vraiment à la production, au transport, à la distribution, au traitement, à la transformation, à la gestion et à l'utilisation de l'énergie électrique. Et à l'époque, on utilise le terme général d'électrotechnique pour qualifier cet enseignement. Il aborde des questions, alors évidemment quelques bases plus fondamentales, comme l'électrostatique, le magnétisme, l'électrodynamique, l'induction, et puis les méthodes et instruments de mesure. Et puis, il va s'intéresser évidemment à des notions plus appliquées, notamment avec des machines électriques ou qui transforment l'électricité en travail mécanique, la transmission électrique de la force à distance, les chemins de fer électriques, les transformateurs, accumulateurs, appareils d'éclairage, canalisation et distribution de l'électricité, régulation du courant, etc. Parallèlement, sur la chaire de physique appliquée aux arts, on ne va pas s'arrêter de parler d'électricité. La mort d'Edmond Becquerel laisse la chaire vacante, et c'est le physicien Jules Viol, qui est normalien, pardon, qui est un spécialiste du rayonnement solaire, donc pas vraiment un électricien à la base, qui prend la suite. Mais Jules Viol va, malgré tout, sur la troisième année de son cours de physique, parler d'électricité et de magnétisme, en abordant l'électrostatique, le magnétisme, les piles, les courants électriques et l'électromagnétisme. Donc il y a certainement des superpositions entre les deux chaires. C'est un point encore qui nous reste sur lequel il nous faut encore avancer en termes de recherche. Les collections avec ces deux professeurs vont continuer de s'enrichir. Un exemple, alors la photo est pas belle, je suis désolé, mais ça représente en fait, c'est un des rares objets qui représente l'idée du réseau et des réseaux qui s'entrecroisent et se retrouvent, notamment dans les immeubles d'habitation. C'est un modèle qui est présenté à l'exposition universelle de 1889 et qui montre comment les réseaux de gaz, d'électricité, d'adduction d'eau se retrouvent dans un bâtiment. Qui devient un peu la porte de sortie pour ces différents fluides ou courants. À côté de ça, on continue de s'intéresser aux moteurs. Donc là aussi, l'idée, ce n'est pas de représenter chaque type de moteur, chaque configuration, mais de montrer des procédés qui sont plutôt innovants en termes de rendement, de facilité d'utilisation, d'économie, de fonctionnement, de maintenance, etc. Donc voilà un exemple parmi tant d'autres. Un objet très arts et métiers pour le coup, c'est un tableau de contrôle de la consommation des ampoules qui rappelle que l'électricité, en tout cas à la belle époque, il y a quand même cette idée que c'est pas forcément une énergie inépuisable, ou en tout cas sans aucune limite de consommation, et on s'intéresse à la manière dont différents types d'ampoules fonctionnent et quel est leur niveau de consommation. Et cette idée-là aussi d'efficacité du procédé, de rentabilité, d'économie de fonctionnement, c'est des choses très importantes et c'est là-dedans que se cachent les détails de l'innovation, entre autres. On continue toujours à s'intéresser aux piles à cette époque-là, là aussi avec des piles qui ont une durée de vie de plus en plus longue, dont les usages se diversifient. Là, c'est une pile de Lafon qui servait notamment pour animer des petites sonnettes. Et à côté de ces objets qui sont très significatifs de leur époque, on va faire l'acquisition, un peu ce que je vous disais dans la présentation générale du musée, d'objets beaucoup plus historiques, qui sont déjà complètement obsolètes, je mets des guillemets, obsolètes, mais qui sont déjà complètement passés lorsqu'on les fait entrer dans la collection, mais des objets qui ont une importance pour l'histoire des sciences ou qui permettent de célébrer la mémoire ou la personnalité d'un savant ou d'un industriel, etc. Donc, par exemple, on a le générateur thermoélectrique de Ruhmkorff, qui est une pièce de 1860, mais qui entre dans les collections en 1900. Autre cas avec une batterie secondaire de Gaston Planté. Planté étant, il a été préparateur de la chaire de physique au CNAM, et c'est une personnalité très importante dans l'histoire de l'électricité. Et l'idée de faire entrer des objets relatifs à Planté, c'est aussi une manière de célébrer la mémoire de cet inventeur et de rappeler sa place dans une histoire encore assez récente, cette époque-là de l'électricité. Au début des années 30-40, le musée va un peu changer d'orientation. On ne fait plus vraiment d'acquisitions qui sont significatives sur le plan de l'innovation en train de se faire. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a cette dissociation entre les enseignements d'un côté et les collections de l'autre. Et le musée commence à faire entrer des pièces qui ont un caractère beaucoup plus historique et se lance dans une démarche que nous n'avons plus aujourd'hui, mais qui a été assez forte à une certaine époque, de sauvegarde de ce qu'on pourrait appeler le patrimoine industriel. Aujourd'hui, c'est plus vraiment les musées qui s'occupent de ça, c'est plutôt l'administration des monuments historiques qui a pris le relais. Mais on a dans la collection, comme ça, un certain nombre d'objets de la fin du 19e siècle qui sont prélevés sur leur site d'utilisation, qui entrent dans les collections et qui reçoivent ainsi une certaine protection. Autre exemple avec... Alors là, on est vraiment sur du sauvetage. Alors bon, l'objet est un peu poussiéreux, j'ai pas eu de photos plus récentes, d'un objet vraiment belle époque de la société alsacienne de construction mécanique, qui deviendra Alstom des années plus tard, et un objet qui est sauvegardé, qui entre dans les collections au milieu des années 1950. Lorsqu'arrivent les années 60, le musée qui affirme de plus en plus sa valeur muséale et la valeur patrimoniale de la collection, va continuer de développer sa collection avec d'autres types d'objets. Sur la gauche de cette image, vous avez un tableau de démonstration qui permet de montrer la puissance et la consommation d'énergie électrique de différents appareils domestiques. Vous avez un sèche-cheveux, un radiateur, une lampe, je crois qu'il y a un rasoir aussi. Bon. Et vous avez un compteur EDF très classique de l'époque qui tourne et vous regardez en appuyant sur le bouton de tel ou tel objet comment le compteur se comporte. On parlait de médiation tout à l'heure, on est tout à fait dans un dispositif de médiation. Alors nous, on l'a patrimonialisé, celui-là, c'est-à-dire qu'il a un statut d'objet de la collection du musée. Il est inaliénable et imprescriptible, mais... En fait, c'était un moyen à l'époque de faire passer un certain nombre de messages et de sensibiliser le public à un certain nombre de notions. Donc là, on est vraiment sur un dispositif. Aujourd'hui, on ferait peut-être ça avec des écrans tactiles. On ferait pas ça sans doute sous cette forme-là. Mais du coup, voilà, sur le plan de la muséographie, c'est un témoignage très intéressant. L'objet sur la droite, c'est un des nombreux modèles de centrales électriques qu'on fait fabriquer à l'époque et qui... sont un peu en phase avec la modernisation ou la construction de nouvelles unités de production par EDF, que ce soit pour l'essentiel des centrales à gaz ou à charbon. 71, en gros, un siècle après les brevets de Zenob Graham, une première exposition rétrospective, Electre 71, qui permet de mettre en scène un certain nombre d'objets de la collection avec une dimension très vulgarisée. Dans les années 2000, la première exposition du musée rénovée après les grands travaux s'intitulait Volta, de l'électricité à la pile. Elle mettait en scène des instruments de physique du cabinet de Charles à l'occasion du bicentenaire de la communication d'Alessandro Volta devant la Royal Society de Londres quant à l'invention de la pile. Alors, pour finir, comment... se pose la question, comment présenter l'électricité dans un musée généraliste des techniques, puisque le musée des arts et métiers n'est pas un musée dédié seulement à l'énergie, et encore moins seulement à l'électricité. L'idée est finalement de jouer sur le décloisonnement des filières techniques en s'appuyant sur des notions fondamentales que j'ai un peu filées pendant cet exposé, que sont l'expérience d'un côté et l'application industrielle de l'autre. On peut également jouer sur la nature même des objets, certains d'entre eux étant disposés pour l'enseignement et la démonstration. Et donc, ce sont du coup des objets plutôt facilement compréhensibles ou facilement lisibles, ou pour lesquels on a un support de médiation relativement simple à apporter pour que l'objet puisse être interprété. Dans certains cas, on met en place, vous le voyez ici, bon, la photo n'est pas géniale, mais ce sont des modèles pédagogiques interactifs en libre accès, qui sont dans la salle de l'énergie au musée, qui permettent aux visiteurs de découvrir un certain nombre de procédés en manipulant eux-mêmes certains objets. Et c'est quelque chose qui fonctionne toujours très bien avec les visiteurs. Les collections, finalement, en général au musée, se distinguent par leur richesse et l'étendue des thématiques couvertes. Ce sont des, comme je le disais, vraiment des collections importantes du point de vue, enfin, par le fait qu'elles sont généralistes et qu'on peut essayer de faire dialoguer différents fonds entre eux. Par exemple, sur l'électricité, on présente dans les salles dédiées aux instruments scientifiques tout ce qu'on a vu au début de l'exposé, ces objets de physique, de cabinet de physique et de physique amusante. Ça, c'est plutôt en lien avec d'autres objets comme l'horlogerie, par exemple, en IS, en instrument scientifique. La notion de conversion de l'énergie, ça, c'est vraiment dans la salle de l'énergie et on fait le lien entre l'électricité et d'autres filières énergétiques. Et puis, sur certains aspects relatifs aux applications, ça peut se trouver dans d'autres salles du musée. Par exemple, la galvanoplastie est abordée dans le domaine des matériaux, tandis que la télégraphie électrique, elle, est présentée dans la salle relative à la communication. On peut aujourd'hui, collecter toutes ces données-là, essayer de les mouliner, de phosphorer et de s'en servir pour réfléchir aux axes d'une politique d'acquisition. Parce qu'un musée, on dit souvent qu'un musée qui n'enrichit pas ses collections est un musée mort. Et en plus, nous, ça fait partie de nos missions statutaires. On est là pour enrichir les collections nationales. Donc, aujourd'hui, la question se pose, comment, que ce soit sur l'électricité ou d'autres filières, comment faire entrer dans les collections des pièces qui sont significatives du point de vue de l'innovation et qui constituent de grands jalons technologiques. Et comment présenter ces objets passés et pour certains d'entre eux plus récents au public. Et actuellement, il y a une réflexion qui est en train d'être conduite pour actualiser la dernière partie de la salle de l'énergie relative à l'énergie après 1950, avec l'idée de présenter quelque chose de patrimonial et interactif autour de l'évolution de la production et de la consommation d'électricité pour des usages domestiques. Voilà un peu l'actualité, et j'en ai fini.
Alors, merci beaucoup. Ce que je vous propose, on va juste prendre le micro pour tenir le temps imparti après cette magnifique conférence qui ouvre beaucoup de perspectives et de discussions, il va falloir malheureusement sacrifier, non pas votre conférence qui était passionnante, mais sacrifier un peu de temps de questions et de discussions pour ne pas sacrifier les visites, la déambulation que vous avez présentée. Il y a quand même 5 minutes peut-être d'échange. C'était fascinant parce que vous avez présenté au minimum 3 volets et au fond, par rapport aux étudiants, aux enseignements et à la chaire, le réseau n'apparaît forcément que tardivement, le réseau n'apparaît que de façon périphérique, le réseau n'est évoqué que dans l'interconnexion des réseaux gaz, électricité ou de façon postérieure à partir donc de l'entre-deux-guerres. De toute façon, ce qu'on remarque vraiment, c'est la dichotomie qui est liée à l'histoire industrielle, l'histoire de l'électricité. Avant 1874 et 1881, en tant qu'historien, c'est effectivement ce que vous avez montré, les cabinets de physique donc les instruments scientifiques, la réflexion sur l'énergie électrique forme la muséographie et la dimension industrielle, elle ne peut être développée qu'après avec le décalage. Et c'est tout à fait significatif que le développement après les années 50, donc l'instrumentation, on insiste, comme a été dit par Cyril, production, consommation, usage et le réseau est la partie à la fois absente et la partie intermédiaire ou la partie donc trop volumineuse. Donc c'était juste les éléments ici que je voulais souligner, avec quand même une petite question, Cyril et d'autres. Vous avez évoqué la complémentarité, ça me semble très complémentaire avec le musée Électropolis, la cité Électropolis. Donc Mulhouse est quand même qui est la capitale française, européenne, presque internationale des musées techniques, parce qu'il est rare de retrouver un tel cumul avec en même temps les chemins de fer, et vous êtes autant spécialiste des transports que de l'électricité. Je pense qu'il y a une complémentarité, parce que je n'ai pas revisité Électropolis, qui est en grande difficulté financière, ça c'est autre chose. C'est très complémentaire, parce que justement, Mulhouse EDF représente donc une muséographie avec plutôt ouvert sur les systèmes, pas forcément les réseaux, mais pas uniquement l'objet, mais au fond, en amont et en aval.
C'est ça.
Je pense que vous avez
et avec une forte dimension ethno aussi de l'utilisation, enfin de l'utilisateur, le rôle de l'utilisateur du consommateur dans l'électricité, chose que nous au musée, nos collections ne nous permettent pas vraiment de le démontrer.
Alors, je pense qu'il y a quand même le temps, Cyril, ou d'autres, quand même quelques minutes avant de passer. Tu voulais faire...
Non, je voulais laisser la parole.
La salle, qu'est-ce qui voudrait poser des questions. Où les gens sont pressés, à juste titre, qu'il y a un beau soleil d'hiver, pour profiter de la déambulation, du visible et de l'invisible. Bravo, en tout cas, donc vous pourrez poser la question. Alors, je rappelle qu'après la déambulation, vous êtes enfermé, vous pouvez vous perdre une seconde, mais pas plus, quand il existe, il y a le pot à la fin pour revenir. On revient après la déambulation pour reprendre des forces, après une congélation relative, vous revenez véritablement dans le buffet. Donc je laisse aux deux organisateurs, donc Valérie et Boris, pour vous présenter un peu l'ordre de bataille.